Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur les premières conséquences de la réforme de l'impôt sur la fortune. Elle devait permettre d'injecter de l'argent dans l'économie, mais les experts ne le constatent pas pour l'instant. Et l'investissement dans certaines PME aurait même diminué. C'est ce que vous allez nous expliquer, Marjolaine Corr. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous recevrons Leslie Fauvel. Bonjour également.
Bonjour.
Alors pour l'émission complément d'enquête qui sera diffusée jeudi prochain sur France 2, vous avez enquêté sur Pierre Castel. C'est la 8e fortune de France. Il est à la tête d'un véritable empire du vin qui repose sur un système d'optimisation fiscale très sophistiqué.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Je sais que certains voudraient que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aide à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs.
Voilà, ça c'était Emmanuel Macron, donc le 10 décembre dernier, en plein mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République justifie sa réforme de l'ISF parce qu'elle permet, dit-il, d'encourager l'investissement dans l'économie. Alors depuis, elle est devenue un symbole, un enjeu idéologique. Mais alors que le grand débat se poursuit et qu'une commission travaille par ailleurs pour évaluer cette réforme, eh bien nous avons voulu, nous aussi, de notre côté, faire ce travail d'évaluation en quelque sorte, à froid et sans a priori. Alors, on va voir quelles sont vos conclusions, Marjolaine Corr. Hein. Mais ce qu'il n'est peut-être pas inintéressant de rappeler pour commencer, c'est ce qu'est précisément cette réforme.
Eh bien, c'est assez simple. L'ISF est devenu l'IFI, c'est-à-dire qu'on a transformé l'impôt sur la fortune en impôt sur la seule fortune immobilière. On a coupé la poire en deux, en quelque sorte. Si vous tirez votre richesse de dividendes liés à des actions, vous êtes exonéré de l'impôt. Mais si vous êtes un grand propriétaire terrien, eh bien, vous continuez de le payer.
Et qu'est-ce qui justifie cette différence de traitement?
Eh bien, on considère que si vous avez de l'argent disponible, eh bien, vous pouvez le placer, donc investir dans l'économie, tandis que des immeubles, c'est une richesse qui dort et donc ça ne sert pas l'économie.
Ouais, donc ça c'est pour le principe. Maintenant, comment est-ce que cette idée de réformer l'ISF a germé dans l'esprit d'Emmanuel Macron ?
Alors pour le comprendre, on va remonter en 2007, à l'époque où Nicolas Sarkozy, alors président de la République, commande un rapport sur la libération de la croissance française à Jacques Attali. C'est ce qu'on appellera la commission Attali. À l'époque, Emmanuel Macron est nommé co-rapporteur de cette commission et pour lui, la suppression de l'impôt sur la fortune, c'était déjà un enjeu important. C'est ce que m'a raconté le journaliste Marc Andevelde, qui est l'auteur d'un livre sur Emmanuel Macron.
Il avait réussi à convaincre les membres de la commission Attali à proposer à leur président, donc à Jacques Attali, la suppression de l'ISF. Et finalement, Jacques Attali n'a pas retenu la proposition parce qu'à l'époque, Sarkozy... Il ne voulait pas dégoupiller la grenade politique qu'était la suppression d'un impôt aussi symbolique que l'ISF.
Ouais, donc il faudra attendre 2017 pour qu'on le fasse finalement. Maintenant, examinons le fond, Marjolaine. Un des premiers arguments qui a été mis en avant par le chef de l'État pour réformer cet ISF, c'est de dire qu'il faisait fuir les riches et donc que la richesse qui s'en allait était supérieure à celle que l'ISF rapportait chaque année aux caisses de l'État. Alors ça déjà, est-ce qu'on peut l'établir ?
Alors pour ce qui est des départs, ça dépend des années. 2012 par exemple a effectivement été une année où beaucoup de Français sont partis à l'étranger, comme nous l'explique Pierre Madec, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Ce qui s'est passé en 2012, c'est que quand François Hollande est arrivé au pouvoir, il a dit on va imposer de la même façon les revenus du capital et les revenus du travail. Donc il y a eu un choc fiscal très important qui a été appliqué sur les plus hauts niveaux de revenus et notamment sur les revenus du capital mobilier. Donc ça a constitué un choc fiscal très important. Et c'est compliqué de dire que c'est dû à ça, mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est que cette année-là, l'année de la barémisation, il y a eu beaucoup plus de départs.
Oui, mais des départs, si j'entends bien, qui sont donc liés à un contexte particulier. Mais sinon, d'une manière plus générale, Marjolaine, est-ce qu'on sait combien de Français fortunés quittent chaque année le territoire ?
Alors oui, on a quelques chiffres et ce qu'ils montrent, c'est qu'il y a bien des départs réguliers, mais pour Pierre Madec, on n'assiste pas pour autant à une hémorragie.
Il y a à peu près en 2014, 784 personnes assujetties à l'ISF qui ont quitté la France. Il faut rappeler qu'en 2014, il y avait à peu près 350 000 ménages qui étaient assujettis à l'ISF. On voit bien que c'est extrêmement marginal et qu'on n'est même pas capable, à l'heure actuelle, de faire le lien entre l'existence de l'ISF et le départ de ces ménages. C'est des ménages très riches qui ont potentiellement des opportunités de carrière ailleurs dans le monde. Et donc, leur départ de la France peut s'expliquer par d'autres facteurs que uniquement l'existence de l'ISF en France. Mais il y a plus de gens, proportionnellement, qui partent quand ils sont assujettis à un impôt sur le revenu élevé que quand ils sont assujettis à l'ISF.
Et on peut ajouter à ces chiffres une enquête Ipsos de 2015 réalisée pour le compte de la Banque Transatlantique dans laquelle on apprenait que seuls 7% des Français envisageant de s'installer à l'étranger le feraient pour des raisons fiscales.
Ouais, donc l'ISF ne serait pas forcément la cause de ces départs. Bon, cela dit, c'est de toute façon très difficile à prouver.
Oui, parce que Bercy reste volontairement assez opaque concernant l'ISF et l'IFI. Les seuls chiffres qui m'ont été communiqués, ce sont les recettes de l'IFI pour 2018, 1,8 milliard d'euros, alors que l'ISF en rapportait 5,67 milliards en 2017.
Mais on n'a pas de chiffres plus précis, plus détaillés sur qui part, qui rentre, quelle richesse ça représente ?
Eh bien non, et ça rend toute évaluation encore plus difficile. Même les chercheurs ne disposent pas de données, malgré des demandes déjà formulées auprès du ministère des Finances. Pour l'impôt sur le revenu, on a tout ce qu'il faut. En revanche, sur l'ISF, quasiment rien.
Mais il semble que ça bouge quand même un peu.
Oui, et c'est très récent. Écoutez Kamel Gadouche, il est le directeur du centre qui gère les données sur lesquelles les chercheurs peuvent travailler. Et il m'a confirmé qu'il était question de les rendre publiques.
Actuellement, c'est envisagé par la Direction générale des finances publiques, notamment le régime juridique, puisqu'on voit que ces données sont quand même très particulières, très très identifiantes. Là, on est sur des données à caractère personnel, des dispositifs de loi informatique et liberté. On ouvre quand même le capot de la voiture, on ouvre quand même complètement le fonctionnement interne d'une institution. Et donc là, il y a des juristes, et je sais qu'il y a des réunions. Je sais que ce qui est étudié, c'est de voir si c'est compatible avec cette ouverture aux chercheurs et dans quelles conditions.
Ouais, donc faudra attendre encore un peu avant d'avoir des données de l'administration fiscale. Mais le comble dans cette histoire, Marjolaine, c'est que l'administration fiscale elle-même n'a pas toujours des informations fiables sur la réalité du patrimoine des Français.
Et oui, c'est un peu le paradoxe. Contrairement à l'impôt sur le revenu, où c'est votre employeur qui déclare vos revenus, là, c'est le propriétaire qui estime lui-même la valeur de ses biens. Et c'est donc lui qui décide ou non de se déclarer auprès des services fiscaux. Du coup, ça complique la tâche du fisc. Écoutez à ce sujet Alexis Pire, il est directeur de recherche au CNRS et il a travaillé avec des agents de cellules, justement chargés de contrôler les patrimoines.
Ce que j'ai très bien senti en faisant des entretiens et des observations dans ces cellules de fiscalité immobilière, c'est que les agents ont le sentiment d'être en charge d'un impôt finalement très contesté, très critiqué, et qu'il fallait prendre beaucoup de pincettes en fait. Enfin, il fallait être très respectueux des contribuables, en marchant un peu sur des œufs en fait. Ce que m'expliquaient finalement ces inspecteurs de fiscalité immobilière, c'est qu'il fallait être très précautionneux et qu'on leur envoyait une lettre d'abord en leur disant « Est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas un patrimoine d'une valeur qui supposerait l'ISF ?» Et puis que s'ils ne répondaient pas au bout d'un certain temps, on leur renvoyait encore une lettre en essayant de se montrer, disons, courtois. Et j'avais dit « Mais et pourquoi vous êtes aussi prudent en fait ?» Et ce que m'expliquaient ces inspecteurs de fiscalité immobilière, c'est aussi qu'on y va doucement aussi parce qu'on ne peut pas abattre complètement ses cartes, parce que ça dépend en grande partie de la bonne volonté du contribuable, de bien vouloir déclarer ce qu'il a et la totalité de ce qu'il a. Et donc on essaye de rentrer dans un rapport contractuel, dans un rapport de bonne entente, pour, disons, maximiser les chances d'avoir un maximum de déclarations.
Ouais, donc on prend des gants avec les propriétaires de biens immobiliers, mais on en prend aussi des gants avec les Français qui travaillent, qui vivent à l'étranger.
Oui, mais là c'est pour une autre raison en fait. On considère qu'ils représentent une forte valeur ajoutée, et donc on fait tout pour les séduire et tenter de les faire revenir, de les impatrier, comme on dit. Y compris en leur accordant des droits différents de ceux des autres Français. Et ça, c'est Alexandre Garabédian, directeur de l'AGFI, le groupe d'information financière professionnelle, qui nous l'explique.
Le régime des impatriés permet aux gens qui se réinstallent en France de bénéficier d'une exonération partielle d'impôt sur le revenu, sur la prime d'impatriation, donc c'est le supplément de rémunération qu'on leur verse pour s'installer en France, et ça pour une période qui était limitée à 5 ans. Fin 2016, le régime il a été renforcé. On a allongé le bénéfice de l'exonération de 5 ans à 8 ans. Et puis, début 2018, il a été décidé de dispenser de cotisation retraite donc à la fois les salariés et les employeurs, pour les salariés qui seraient relocalisés en France. C'est une mesure qui s'applique en 3 ans, renouvelable une fois, donc 6 ans au total. Et ça, ça permet de rendre la place de Paris un petit peu plus compétitive en termes de coût de l'emploi par rapport à ses voisins.
Et ça passe donc par des mesures très avantageuses, on l'entend, pour les salariés. Et ça marche, ça, Marjolaine ?
Eh bien, là encore, hein, c'est difficile de le dire. On n'a pas de données fiables sur l'évolution du nombre d'impatriés. On sait juste qu'à l'heure actuelle, il y a entre 10 et 12 000 foyers fiscaux concernés en France. En revanche, ce que vous disent quand même les professionnels, c'est que tout ça contribue à créer un environnement qui attire l'attention des investisseurs étrangers. Écoutez Bernard Arocq, par exemple. Son travail consiste à investir dans les PME françaises en trouvant des investisseurs, y compris à l'étranger. Eh bien, lui constate un certain regain d'intérêt.
Je confirme que les investisseurs étrangers ont retrouvé le chemin de la France qu'ils avaient déserté sous le précédent quinquennat, essentiellement à la suite de l'annonce des premières mesures du quinquennat Hollande sur la taxation des plus-values, qui a eu un effet très fortement négatif sur l'attrait de la France auprès des investisseurs étrangers. Taxation des plus-values, taxe à 75%. Donc, par contraste, effectivement, l'arrivée d'Emmanuel Macron avec son programme de réforme ont eu pour effet, et ça on l'a très bien senti, que les investisseurs étrangers ont regardé la France avec un œil beaucoup plus favorable.
Ouais, donc le regard des étrangers évoluerait. Maintenant, voyons aussi ce que la réforme a changé pour les Français qui, eux, sont restés dans leur pays. Et la première chose qu'on constate, hein, Marjolaine, et c'est mécanique, c'est que leur pouvoir d'achat a augmenté.
Oui, alors ça, c'est l'Institut des politiques publiques qui a étudié le phénomène. Claire Leroy est économiste et effectivement, ses travaux ont démontré que la réforme a nettement profité aux plus hauts revenus.
Nous, ce qu'on a pu simuler, c'était qu'il y avait des gains de revenus disponibles de l'ordre de 5,5% pour les 1% des ménages les plus aisés. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de zoomer un peu parmi ces ménages. Et quand on zoome, on se rend compte que c'est concentré en fait vraiment tout en haut. Et notamment pour les 0,1% des ménages les plus aisés, on trouvait des gains de près de 14,6% de revenus disponibles. Ce qu'on peut voir, c'est que ces gains de revenus disponibles qui sont donc relatifs pour les 1% des ménages les plus aisés, ils sont vraiment très élevés par rapport à ce qu'on trouve pour les ménages plutôt de la classe moyenne. On avait notamment montré que pour une très large classe moyenne, les gains étaient plutôt de l'ordre de 2,4% pour les actifs, par exemple, ou des gains plus faibles, quoi.
Ouais, donc les plus aisés sont devenus encore plus aisés, tandis que les classes moyennes ont vu leur pouvoir d'achat augmenter, mais moins, hein, c'est ce qu'on entend. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, on a aussi vu se creuser un écart à l'intérieur même de ces classes les plus aisées.
Oui, ceux qui possèdent des actions sont devenus un peu plus riches, tandis que ceux qui possèdent des maisons ou des appartements, eux, ils payent l'IFI. Et donc, ils n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter. Étienne Lehmann est chercheur au Centre de recherche en économie et droit de Paris 2. Et il a constaté l'apparition de ce fossé.
On voit que le patrimoine immobilier touche les classes moyennes, les moyennes supérieures, alors que le patrimoine vraiment financier, qui est au cœur de la réforme transformant l'ISF en l'IFI, est beaucoup plus concentré dans les patrimoines les plus élevés. Donc c'est clair que cette réforme a bénéficié d'une part aux redevables de l'ISF qui sont concentrés dans le haut de la distribution des revenus, et parmi ces redevables à l'ISF, en plus, plutôt sur les très riches.
Ouais, donc les possesseurs de logements ou de terrains y ont perdu par rapport aux possesseurs d'actions, et il semble d'ailleurs que ça leur donne quelques idées.
Et oui, ce qu'on peut observer, c'est que depuis l'apparition de l'IFI, de plus en plus de propriétaires envisagent de se séparer de leurs biens et de placer leurs gains pour payer moins d'impôts. C'est en tout cas ce que m'a confié cette gestionnaire de patrimoine.
La deuxième étape cette année, c'est de vendre. Parce qu'ils vont transformer leurs biens en trésorerie. Tout le monde cherche à vendre. Parce que quelqu'un qui détenait un bien qui était à l'IFI, aujourd'hui, s'il le vend et qu'il le passe en trésorerie, il n'est plus. Par contre, ils vont capitaliser beaucoup, beaucoup de trésorerie et cherchent à savoir après comment ils vont l'utiliser. Mais déjà, ils vont sortir de l'impôt.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Bien, alors voyons maintenant ce que les plus fortunés ont fait de l'argent qu'ils ont gagné avec cette réforme de l'ISF. L'objectif affiché avec la création de l'IFI, c'était de leur permettre de l'investir, cet argent, dans l'économie. Alors, est-ce que Marjolaine Corr, ça a été le cas ?
Alors là encore, rien de définitif, hein, puisque la réforme est très récente, mais on a quand même quelques indications, et si l'on écoute les professionnels, notamment cette gestionnaire de patrimoine, eh bien rien ne permet de dire que cet argent est réinvesti.
On a des clients qui avaient un actif financier très important, qui avaient de l'immobilier, pour certains, qui payaient des sommes comme 80 000 euros d'ISF avant, se sont retrouvés à payer que 20 000 euros d'IFI aujourd'hui, quoi. Pour eux, ça a été une aubaine. Quelqu'un qui paye 80 000, qui se retrouve à payer 20 000, la première question, il m'a dit, mais comment se fait-il que je paye si peu ? Ben, je lui ai dit, ben voilà, parce que ça rentre plus. Il y a beaucoup de biens qui deviennent exonérés de l'IFI. Pour eux, c'est merci Macron, quoi. C'est... mais personne ne m'a dit en face, bah, écoutez, moi cet argent, je vais le réinvestir ailleurs. Personne n'a eu cette réflexion.
Et puis un autre constat assez surprenant pour le coup qu'on peut faire, Marjolaine, parce que c'est un peu un comble. Hein. Il semble que depuis la réforme, on investirait au contraire moins dans certaines PME.
Et oui, parce qu'on a supprimé une niche fiscale qui s'appelait l'ISF PME. Alors avec cette niche, si vous investissiez dans des PME, vous pouviez déduire de votre ISF 50% de ce montant, et ce jusqu'à concurrence de 45 000 euros. Or, cette niche a disparu du jour au lendemain, et certaines PME l'ont senti passer, si l'on en croit Antoine Basquiera. Il dirige Early Metrics, une agence de notation de start-up et de PME innovantes.
L'investissement, en particulier dans les jeunes sociétés, dans les très jeunes startups qu'on appelle early stage, dans les premiers 2 ans de leur vie, a été beaucoup porté en France par cet enjeu, cette fiscalité favorable, où en fait les business angels, ces fameux investisseurs particuliers, avaient tendance à beaucoup investir dans ces très jeunes sociétés en échange justement d'une diminution de l'ISF. Et quand, du jour au lendemain, puisque ça a été relativement brutal, on a vu que l'ISF s'est arrêté, un des intérêts d'investir dans les startups et les PME innovantes, cette niche fiscale a disparu, ce qui fait qu'aujourd'hui, les investisseurs qui sont restés actifs ont diminué.
Ouais, c'est un peu le monde à l'envers. Là, maintenant, il faut rester prudent, hein, Marjolaine. On va le répéter, les effets de la réforme, on commence à peine à les ressentir.
Oui, et on aura peut-être d'autres précisions le mois prochain, hein, puisque la commission d'évaluation qui a été mise en place à la demande du gouvernement devrait publier ses premières conclusions. Mais l'économiste Pierre Madec, lui aussi, pense que pour avoir une vision globale de ces effets, il faudra attendre un peu.
Il est trop tôt pour faire un bilan de la réforme de l'ISF au sens très large et notamment en termes de retour sur investissement dans l'économie française. Ce qu'on voit par contre, les premiers indicateurs montrent très bien, c'est que le don aux associations qui étaient liées à l'ISF ont fortement baissé en 2018 à cause de la réforme. On n'a pas pour l'instant d'études sur les PME en tant que telles, mais on peut penser que l'effet sur les PME est similaire à l'effet qu'on a pu voir sur les associations. L'un des problèmes de la réforme, c'est quand même ce manque de fléchage. C'est-à-dire, on dit aux ménages les plus aisés, on va vous donner 3 milliards d'euros et on vous fait confiance pour bien les utiliser. Là, aujourd'hui, il n'est pas certain qu'on ait un retour sur ces 3 milliards qui soit extrêmement positif.
Ouais, pas certain. En revanche, ce qui est certain, si je comprends bien ce que dit Pierre Madec, c'est que les associations, elles ont vu leur niveau de don baisser sérieusement.
Et c'est le syndicat des 100 plus grosses fondations et associations de France qui a lancé l'alerte. France Générosité a fait les comptes et pour son président Pierre Siquet, les résultats sont assez édifiants.
Sur l'ISF, il y avait en 2017 à peu près 300 000 éligibles à l'ISF et ces 300 000 éligibles ont rapporté à peu près 300 millions d'euros. En 2018, il n'y avait plus que 150 000 éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière, donc ce qui veut dire que mécaniquement, il y avait une baisse des dons et nous avons constaté, nous, dans nos adhérents, 55% de baisse de dons, c'est-à-dire à peu près 150 millions, peut-être un peu moins, d'euros de moins en termes de collecte. Donc c'est vrai que c'est une somme très importante.
Ouais, 150 millions d'euros, effectivement, mais pourquoi une chute aussi spectaculaire ?
Eh bien, c'est assez simple. Hein. Plutôt que de payer l'ISF, beaucoup de gens préféraient en donner une partie à des associations. Quitte à payer, on se dit qu'il vaut mieux faire une bonne action. Mais aujourd'hui, les mêmes peuvent garder cet argent et ils ont donc moins le réflexe de donner. Et puis à cela risque de se greffer autre chose, explique Francis Charron, l'ancien directeur de la Fondation de France.
Il y a le prélèvement à la source qui complique un peu parce qu'il faut savoir que l'ISF, c'était un moment particulier. Vous faisiez une déclaration et vous deviez faire votre chèque tout de suite. Donc vous aviez sous les yeux le montant que ça faisait. Donc à ce moment-là, on décide d'en donner à des non lucratifs ou on décide de le donner aux impôts ou une partie des deux, mais on le voit physiquement. Maintenant, tout ça est confondu dans les déclarations d'impôts, donc ça va être plus compliqué. Il va falloir, à mon avis, 2 ans pour que ça revienne, que les donateurs sachent un peu de quel dispositif ils bénéficient.
Ouais, 2 ans peut-être, mais en attendant, certains ont déjà pris les devants.
Oui, quelques grands patrons appellent leurs collègues à plus de civisme. C'est une initiative qui s'appelle « Changer par le don ». Elle date d'avant ce constat, mais elle prend un relief particulier aujourd'hui. 2 grands patrons français incitent les grandes fortunes à reverser 10% de leur patrimoine pour la philanthropie. Il s'agit de Serge Wimbert de Sanofi et de Denis Duverne d'AXA. Ils ont réuni une 40aine de personnalités, des banquiers, des chefs d'entreprise comme Jean Todt, bien connu du monde automobile, ou encore des artistes, Muriel Robin ou le romancier Marc Lévy. Leur objectif est d'afficher une liste de 400 noms d'ici la fin de l'année.
France Inter. Secret d'info.
Bien, alors maintenant qu'on a vu que les effets de la réforme sur l'économie se font encore attendre et que certaines associations, elles, en subissent déjà les effets, il faut maintenant qu'on précise quand même une chose, Marjolaine Corr, c'est que l'ISF, en fait, tout le monde en parle, mais pour les patrons et les investisseurs, c'est pas un enjeu très important.
Effectivement, c'est la mesure qui est la plus médiatique, mais le plus important pour les patrons et les fonds d'investissement, c'est une autre mesure qui, elle, est passée quasiment inaperçue, c'est la réforme de la flat tax.
C'est-à-dire ?
La flat tax, qu'on appelle aussi le prélèvement forfaitaire unique, c'est l'idée que tous les revenus du capital, les actions ou les dividendes, sont soumis au même taux de prélèvement, 30%. Cette flat tax, François Hollande l'avait supprimée, Emmanuel Macron l'a rétablie, et pour l'économiste Pierre Madec, c'est bien plus important que l'ISF.
L'ISF est devenu un symbole. Or, en réalité, on peut penser que la vraie mesure fiscale de baisse de l'imposition du capital mobilier et des revenus du capital mobilier, en fait, c'est plutôt le prélèvement forfaitaire unique que l'ISF. En gros, si vous deviez revenir sur l'une des deux mesures, vous auriez plutôt intérêt à revenir sur l'ISF que sur le prélèvement forfaitaire unique si votre objectif, c'est de faire revenir ou d'empêcher de partir un certain nombre de résidents fiscaux français.
Mais alors, si la flat tax est plus importante que l'ISF aux yeux des investisseurs, alors pourquoi avoir réformé l'ISF ?
Eh bien, parce qu'il ne pèse peut-être pas lourd économiquement, mais symboliquement, il est très important, comme nous l'explique le chercheur Alexis Spire.
L'impôt sur la fortune, c'est très simple, en fait. C'est non seulement un symbole, mais c'est très simple à comprendre, en fait. Et donc, supprimer l'impôt sur la fortune, c'est envoyer un signal très clair, comme quoi on va exonérer les riches de ce qu'ils doivent à la société, de ce qu'ils payent depuis plus de 30 ans, en fait, par le biais de cet impôt. Je pense que le gouvernement avait fait le calcul que c'était important d'envoyer ce signal aux chefs d'entreprise, aux grands patrons qui voyaient la France comme un enfer fiscal. Et donc, ils voulaient envoyer signal et ils voulaient jouer de ce symbole pour envoyer signal. Le problème, c'est que le signal a aussi, du coup, été reçu par la très grande majorité de la population française et que ceux-là sont plus nombreux que les premiers.
Oui, ceux-là ont transformé cette réforme en boulet politique, en quelque sorte, en symbole d'inégalité. D'où la demande, d'ailleurs, de rétablissement de l'ISF qui s'exprime, hein, notamment aujourd'hui à travers le grand débat. Mais alors, comment en sortir, Marjolaine ? On a entendu Emmanuel Macron, au tout début de cette émission, nous expliquer qu'il ne reviendrait pas sur la réforme. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ?
Eh bien, peut-être la modifier. Et pour nous en parler, j'ai rencontré un proche d'Emmanuel Macron, Pierre Ferracci, un des textauteurs du soir, puisqu'on ne dit plus visiteur du soir. Et il m'a confirmé que le président de la République réfléchissait à la manière de sortir de cette situation.
Je pense qu'il s'interroge, oui. On a échangé, comme d'autres, là-dessus. Il s'interroge. Il sait très bien qu'il y a un vrai problème politique. Il est toujours convaincu que sur le plan économique, c'est une bonne chose et que ça participe à l'évaporation de certaines richesses, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il réfléchit, alors peut-être pas forcément pour toucher à quelque chose qui a été un des éléments de sa campagne, mais en tout cas pour retrouver de nouveaux équilibres dans la politique fiscale qui évite qu'il y ait une focalisation aujourd'hui sur l'ISF. Donc, Il y a un peu de courage politique et je pense qu'il n'en manque pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est en grosse difficulté, mais qui devrait l'amener à écouter certains plutôt que d'autres, parce qu'il a des injonctions aujourd'hui contradictoires, y compris dans son entourage.
Et malgré ces injonctions contradictoires, une piste se dessine, celle d'instaurer une obligation d'investissement pour être exonéré de l'impôt sur la fortune. Investissement dans l'économie ou dans les associations, cela permettrait de corriger les effets pervers dont on parlait tout à l'heure, sans pour autant revenir sur la réforme et donc se déjuger.
Oui, on y verra peut-être plus clair lors des annonces qui devraient succéder au grand débat. Merci Marjolaine Corr. Alors je précise qu'on peut réécouter votre enquête ou la podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez également nous y laisser vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule investigation de Radio France ou sur Twitter Investigation RF. Mais en attendant, restez avec nous. Il a créé un empire du vin et quasiment personne ne le connaît. On vous le présente dans quelques instants. C'est sympa, hein, enjoué, ça fait très Britpop. Et pourtant, c'est extrait du dernier album des Belges de Balthazar. Et ça s'appelle Wrong Vibration.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors, nous recevons maintenant Leslie Fauvel. Bonjour.
Bonjour.
Avec Pierrick Morel, vous avez réalisé un documentaire qui sera diffusé jeudi prochain dans Complément d'enquête sur France 2. Et avec vous, on va rester dans le sujet du jour puisque c'est le portrait d'une grande fortune. C'est la 8e de France. C'est un homme qui pèse 12 milliards d'euros. C'est pas rien. Et que tout le monde en fait connaît, mais sans vraiment le savoir. Il s'appelle Pierre Castel. Alors, en deux mots, d'abord, dites-nous, Pierre Castel, c'est qui ?
Pierre Castel, c'est le numéro 1 du vin en France. Et c'est aussi certainement le patron français le plus secret du pays. Tout le monde le connaît sans le connaître. Ce sont des produits que tout le monde voit dans son quotidien. Ce sont tous les vins que vous croisez au supermarché. Le Baron de l'Estac, la Villageoise, Roche-Mazée, Vieux Pape également. Et c'est aussi le caviste Nicolas, qui est le plus grand caviste de France avec 500 points de vente dans le pays.
Oui, on en parlera tout à l'heure. Alors, il a 92 ans. Il n'est pas jeune, mais on va revenir un peu à son enfance pour comprendre d'où il vient. Il est né en 26 dans le Blayais, donc la région de Bordeaux. Et lui-même était fils de viticulteur, mais qui était dans une situation extrêmement précaire.
Tout à fait. Lui, il est fils d'immigrés espagnols. Donc ses parents sont espagnols et se sont installés dans la région du Blayais dans les années 1920. Ils ont eu 9 enfants. Pierre Castel est le 6e d'une grande fratrie. Et son père était ouvrier agricole. Donc, il allait travailler dans les exploitations, surtout viticoles, de la région.
Oui, il a quitté l'école à 12 ans, justement, pour aller travailler dans les vignes. Alors, il comprend très vite, quand même, ce qu'est le commerce, hein, puisque dans les 30 Glorieuses, il va créer une affaire de vin. Ça se passe dans le quartier des négociants à Bordeaux. C'est là que tout commence.
Absolument. Avec ses 8 frères et sœurs, ils décident de monter tous ensemble une petite affaire de négoce de vin. Donc, ils commencent à acheter du vin, à le vendre. Les sœurs tiennent la boutique, les frères vont s'approvisionner, livrent. Et très vite, ils s'imposent un peu comme le leader de la famille, de la fratrie, en fait, dans les affaires.
Et c'est comme ça qu'à la fin des années 70, il devient donc le roi du vin de table. Il fait travailler des milliers de vignerons, déjà.
Oui, absolument. Et surtout, la force de Pierre Castel, ça a été vraiment de profiter de l'essor des supermarchés. C'est-à-dire qu'après, dans la France de la reconstruction de l'après-guerre, c'est l'essor des supermarchés qui ont besoin donc de grands volumes. Et Pierre Castel approvisionne les supermarchés en vin.
Ouais. Alors vous évoquiez tout à l'heure la chaîne Nicolas, qu'il rachète au début des années 90, parce qu'il comprend, et c'est là qu'il a le sens vraiment du commerce, mais que c'est aussi un visionnaire, il comprend que le marché est en train de changer, que le gros rouge justement ça marchera bientôt plus, et qu'il faut se reconvertir dans autre chose. Alors c'est pas vraiment de la qualité, mais c'est quand même un peu de la qualité, où ça a les apparences de la qualité.
Pierre Castel c'est un industriel qui a une vraie vista en fait, donc il s'adapte toujours au marché et il devance même les demandes du marché. Donc en rachetant Nicolas est une vieille enseigne qui date du début du 19e siècle.
Et qui périclite à l'époque.
Voilà, qui est un peu endormie. Et il relance la machine Nicolas. Donc lui, avoir une chaîne de cavistes, ça lui permet non seulement d'écouler ses produits, parce que entre temps, il a racheté petit à petit des châteaux dans le Bordelais qui produisent eux-mêmes du vin en bouteille. Donc ça lui permet de placer ses produits là. Et ça lui permet aussi d'avoir une image de marque un peu plus prestigieuse que la villageoise qu'on trouve en supermarché.
Et c'est dans cette période qu'il va créer le fameux Baron de l'Estac qu'on connaît, qui est pareil, qui est une espèce de vin pas cher à 5€, mais qui a les apparences d'un bon vin.
Le Baron de l'Estac, c'est un vin de Bordeaux, hein, il faut bien le dire. Et alors, ce qui est drôle avec le Baron de l'Estac, c'est que l'Estac est un anagramme de Castel. Donc Pierre Castel s'offre un petit titre de noblesse aux débeautés. Et le Baron de l'Estac, oui, est conçu comme, c'est ce qu'on appelle un vin de marque. C'est conçu pour être un vin standardisé qui a toujours le même goût d'année en année.
Et c'est comme ça donc qu'il devient le roi du marché du vin avec un chiffre d'affaires d'€1 milliard par an, donc ce qui est énorme. Mais il va pas s'arrêter là, il va aussi conquérir l'Afrique, et là c'est pas du vin, c'est de la bière.
Absolument, et alors il se lance Pierre Castel en Afrique très tôt en fait, parallèlement à son histoire du vin en France. Il a à peine 20 ans et il prend un bateau de Bordeaux et il va dans le golfe de Guinée en Afrique pour écouler des fûts de vin. Et ça marche pas si mal, donc il fait des allers-retours comme ça pendant plusieurs années entre Bordeaux et l'Afrique pour écouler du vin. Et puis un jour il fait une rencontre déterminante avec Omar Bongo, qui n'est pas encore président du Gabon, mais qui le deviendra très vite, et qui là l'incite à se lancer dans la bière. Je pense qu'il y a un marché porteur pour lui, et Pierre Castel saute sur l'occasion. Il bénéficie alors de l'aide de la présidence du Gabon, qui lui donne un terrain pour construire sa première brasserie.
Alors première, parce qu'après il sera implanté dans 23 pays, c'est un marché énorme. Et si Pierre Castel est quasiment inconnu en France, en fait c'est une star dans beaucoup de pays africains.
Ben oui, surtout grâce à sa bière qui s'appelle la Castelbière. Donc son nom est connu, son visage ne l'est pas et... Peu d'Africains connaissent la personne qui est derrière le groupe Castel, mais il inonde véritablement l'Afrique de bière. C'est le numéro 2 de la bière en Afrique.
Vous dites qu'il serait plus influent aujourd'hui que Vincent Bolloré en Afrique.
Oui, parce que Pierre Castel, ça fait depuis les années 60 qu'il cultive des amitiés personnelles avec des chefs d'État africains. Donc c'est une longue histoire. Il a connu l'Afrique au moment des indépendances. Il a créé des relations avec ces personnes qui sont arrivées au pouvoir, qui ont gardé le pouvoir pendant des décennies. Et donc, il s'est créé un véritable réseau propre. Et l'un des commentateurs de notre film disent même que voilà, il a créé sa propre France-Afrique à lui tout seul.
Ouais. Et alors, il se contente pas de ça. C'est-à-dire que c'est à la fois un commerçant, un visionnaire, on l'a expliqué. Mais c'est aussi un roi de l'optimisation fiscale. Et alors là, on a des schémas extrêmement complexes avec des fonds qui partent dans des filiales au Luxembourg, à Malte, à Singapour.
L'Empire Castel, c'est une véritable nébuleuse de sociétés. En tout, il a 240 sociétés à peu près, en France et en Afrique. Et toutes ces sociétés, donc, qui sont enregistrées dans des pays différents, sont chapeautées par une société mère située à Gibraltar, qui s'appelle Cassiopée, qui elle-même est gérée par un fonds situé à Singapour. Et à partir de là, on ne sait pas trop ce que devient l'argent.
C'est une toile d'araignée qui est extrêmement difficile de décrypter, mais qui laisse penser qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui part dans des endroits où les impôts sont a priori moins élevés qu'en France, sur le territoire français. Lui-même est domicilié en Suisse aujourd'hui.
Tout à fait. Pierre Castel s'est installé en Suisse en 1981, quelques jours à peine après l'élection de François Mitterrand. Il a d'ailleurs déjà dit qu'il ne supportait pas les socialistes. Et Pierre Castel, avec son groupe, a mis en place un schéma d'optimisation fiscale extrêmement sophistiqué.
À la fois personnel et donc industriel. Refus de s'exprimer, il fuit les médias. Vous n'avez pas pu le rencontrer ?
Non. C'est le plus discret et le plus secret. Il n'a donné qu'une poignée d'interviews dans sa vie à la presse spécialisée principalement. Il a effectivement refusé de nous recevoir. C'est pas faute d'avoir insisté. On est allé toquer un peu à toutes les portes. Et oui, c'est quelqu'un qui restera secret toute sa vie, jusqu'à la fin.
Bien, merci Leslie Fauvel, on le connaît un peu mieux désormais. Alors je précise que votre documentaire sera diffusé donc jeudi prochain dans Complément d'enquête sur France 2. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Michel Bézikian et Ludovic Asselot. Dans quelques instants, CO2 Mon Amour, Denis Chessou recevra Frédéric Fougéa, réalisateur d'un magnifique documentaire animalier qui sera diffusé ce soir sur France 2. Excellent week-end à tous et à samedi prochain.